Elle dit, t'as pas pensé à regarder ton calendrier de l'Avent fait maison aujourd'hui?
Si. Du cordon, ouais, c'est original.
Il se peut que ce soit le plus beau jour de votre vie. Le premier cri de bébé, son premier souffle et cette première fois dans vos bras. Si vous choisissez d'avoir un enfant, l'accouchement sera probablement un événement marquant et merveilleux pour vous. Particulièrement si vous avez eu la possibilité de choisir comment vous allez accoucher. Il n'y a pas un seul bon choix, il s'agit surtout de connaître tout ce qui est possible, parce que ce n'est pas toujours le cas. Bienvenue amis auditeurices, vous écoutez le dernier Agité du local de la semaine, on est ensemble pendant 30 minutes et aujourd'hui l'association Bien-être en Mayenne nous parle des cafés physio qu'elle organise dans le département. Dans la suite de l'émission, je vous emmène bien ailleurs puisque l'on se rend dans l'amphithéâtre du lycée Ambroise Paré pour découvrir ce qu'est le concours national de la résistance et de la déportation proposé aux élèves de collège et lycée. Et pour terminer, évidemment, je l'aime particulièrement ce moment, celui où je vous présente l'agenda de la semaine pour vous aider à ne pas manquer certains spectacles, événements, concerts qui nous font réfléchir, souffler, nous reconnecter à l'imaginaire, à l'émotion, au sensible. On a de très beaux endroits en Mayenne qui ont chacun leurs pattes. Ça se passe en fin d'émission. Restez avec moi. Mais avant toute chose, je vous propose de commencer par un petit coup d'œil sur les gros titres de votre hebdomadaire Le Haut en Joue. Le festival Atelier Jazz de Mélay revient du 4 au 11 mai 2024 pour une 27e édition. Et ça y est, on connaît désormais les trois premiers noms et têtes d'affiche. Vous pourrez retrouver le quartet Swinging Affair qui reprendront les thèmes des films marquants du cinéma à la sauce jazz, bossa nova, samba, bop ou encore cool jazz. Il y aura aussi le guitariste américain jazz rock Mike Stern en quintette avec Denis Chambers, Lenny Stern, et Adrien Ferraud. Et le dernier nom annoncé n'est autre que celui de Justine Lee Brown, qui se produira en quartet hein, avec des notes de blues, soul, rock et jazz. Ensuite, la traversée du désert marocain en 205 pour Mathilde Dupont et Romain Ganvert de Segré. Ils participeront au Nomad Raid en février. Le but est d'acheminer du matériel à destination des enfants qui vivent dans les villages isolés du désert marocain. Et pour terminer, Michel le millénaire est décédé à l'âge de 92 ans. Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 décembre, l'emblématique entraîneur du Stade Lavallois de 1968 à 1992 avait conduit le club en D1, aujourd'hui appelé Ligue 1, en 1976 et conduit l'épopée européenne des tangos en 83 et 84. Si je choisis de donner la vie, je veux aussi choisir comment ça se passera. J'ai été à Mayenne cette semaine pour rencontrer une association qui organise des moments d'échange dans un cadre convivial, chaleureux, plein de bienveillance sur la question de l'accouchement. L'association souhaite que chaque femme puisse connaître tous les accouchements possibles pour elle pour pouvoir faire un choix éclairé et consenti sur son grand moment de vie. Allez, on rentre au chaud, suivez-moi. Nous sommes au café La Renaissance à Mayenne, dans lequel je retrouve trois membres de l'association Bien-être en Mayenne.
Bonjour, je suis Jennifer et je suis membre de l'association Bien-être en Mayenne. Alors l'association Bien-être en Mayenne, c'est une association qui a pour but de promouvoir, d'informer un petit peu sur toutes les possibilités de naissance qui s'offrent en Mayenne. Parce que ce n'est pas obligatoire d'accoucher à la maternité, comme on le voit classiquement parlant.
Donc l'association Bien-être en Mayenne, elle est composée de personnes qui ont déjà accouché de manière physiologique, de professionnels de santé et puis aussi de professionnels de la périnatalité comme les doulas par exemple.
Vous organisez des rencontres, des moments d'échange que vous appelez café physio. Donc un accouchement physiologique, ça regroupe plusieurs choses, mais ce n'est pas forcément un accouchement à domicile.
L'accouchement à domicile, du coup, fait partie du panel de choix qui s'offre aux futurs parents, mais il y a aussi la possibilité d'accoucher en maison de naissance ou en plateau technique. Alors l'accouchement physiologique, c'est un accouchement qui se passe sans intervention. Concrètement, ça peut se passer aussi bien à l'hôpital qu'à la maison. Le but, c'est d'être bien entouré et de laisser la nature se faire. Quand on souhaite accoucher physiologiquement, on fait abstraction de toute aide médicale. Du coup, en effet, on n'a pas accès à la péridurale, on n'a pas accès à l'ocytocine de synthèse pour accélérer le travail, des choses comme ça. C'est le corps qui, qui gère la naissance. C'est l'action de maman et de bébé ensemble pour donner la vie.
Maëlys Chetard, alors l'accouchement aussi physiologique ne veut pas dire pas de surveillance médicale. Voilà. C'est effectivement, on va essayer d'intervenir le moins possible dans le processus qui est physiologique, donc la nature sait faire. Mais que ce soit à domicile, en plateau technique, maison de naissance ou à l'hôpital, il faut une surveillance d'une sage-femme tout au long du travail. Surveillance de la maman et de l'enfant, bien sûr.
Et donc, vous êtes sage-femme ?
Je suis sage-femme, effectivement.
Et donc, vous avez déjà accompagné, justement, ce type d'accouchement ?
Oui, j'ai déjà accompagné. Alors, moi, je travaille en milieu hospitalier et on a régulièrement des mamans qui viennent avec des projets d'accouchement physiologique. Et c'est tout à fait possible de les accompagner en milieu hospitalier avec des projets physio.
Et alors, on parlait tout à l'heure de plateau technique. Est-ce qu'on peut réexpliquer ce qu'est un plateau technique ?
Alors, un plateau technique, c'est une salle de naissance qui est mise à disposition d'une sage-femme libérale en milieu hospitalier. Actuellement, en Mayenne, malheureusement, on n'a pas encore ce type de dispositif. Mais je pense dans les départements limitrophes à la Mayenne, il doit sûrement y en avoir. Et en fait, c'est votre sage-femme votre sage-femme libérale qui vous suit tout au long de la grossesse. Et le jour J de l'accouchement, votre sage-femme, elle vous accompagne en fait dans la maternité qui propose cette salle-là de plateau technique. Vous accouchez dans la salle et ensuite vous retournez à la maison si tout est OK.
Si nous sommes dans ce café, c'est parce que l'association organise des cafés physio dans le département. Et d'ailleurs, ça va bientôt commencer.
Vous pouvez mettre là pour notre
poisson. Ouais,
moi je veux bien faire ça.
C'est super, merci. 3. Moi je veux bien qu'on
ait un. Ah bah oui,
bien sûr.
Donc Mathilde Rossignol, je fais également partie de l'association Bien-être en Mayenne. Les cafés physio, ils ont pour objectif de réunir les futurs parents ou des personnes qui seraient intéressées par l'accouchement naturel et l'accouchement physiologique et tout ce qui tourne autour de la naissance d'une manière générale. Et puis de pouvoir échanger directement, de se donner des conseils, de créer de l'échange, du contact humain, particulièrement en Mayenne, puisque c'est une offre qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui. On va essayer de couvrir un peu les villes du département. Donc on en a fait un en octobre à Laval. Aujourd'hui, on en a un à Mayenne. Et en début d'année prochaine, on en aura un à Château-Gontier. Puis après, on va essayer de poursuivre un petit peu, au moins dans les trois grandes villes, et pourquoi pas sur d'autres villes du département.
On va essayer à l'avenir peut-être de faire intervenir des intervenants de la périnatalité, notamment peut-être Nina Nard dans le cadre de son film « Il faut pas pousser » avec une projection. Voilà, au fur et à mesure aussi des idées des parents, des besoins aussi, des demandes qu'on aura, je pense qu'on va s'adapter à la demande des parents. Là, ça fait un an que l'association est créée, donc on a tout à faire et tout à découvrir.
Et les parents, dans plus d'intimité. Voilà. Donc là, je suis enceinte de 3 mois et demi du deuxième. Et je sais pas, je me pose des questions. Donc je viens là, je viens découvrir, prendre des infos, voir ce qui se fait, ce que je peux faire, ce que. Voilà, je viens à la pêche.
Ces femmes ou ces couples qui viennent échanger lors de ces cafés, qu'est-ce qu'ils recherchent ici qu'ils n'ont peut-être pas forcément ailleurs ?
Je pense que ce qu'elles veulent, c'est surtout que leur accouchement soit respecté. Et c'est vrai qu'elles, c'est des personnes qui ont envie de ne pas avoir trop de médicalisation pour pouvoir avoir vraiment le pouvoir sur leur corps et sur la naissance de leur bébé. Donc elles ont beaucoup de demandes de témoignages, en tout cas c'est ce qu'on a ressenti lors du premier café physio, c'est les témoignages de personnes ayant vécu un accouchement physiologique, de comment ça se passe concrètement, quelles sont les différentes étapes, de sentir écoutée et puis de pouvoir avoir des témoignages.
Et pourquoi aujourd'hui l'accouchement dit plutôt classique est presque évident pour beaucoup de personnes ?
En France, il y a 80% de femmes qui accouchent avec une péridurale. Je pense que c'est classique, en fait, c'est dans l'esprit de tout le monde. On va accoucher, on ne veut pas souffrir. Voilà, on pose une péridurale. C'est, les femmes, elles se disent, c'est comme ça. Dans d'autres pays limitrophes à la France, il y a nettement moins de péridurales et voilà, je pense qu'il faut faire évoluer aussi les consciences et les façons de faire. c'est nos pratiques aussi à nous de sage-femme qu'il va falloir faire évoluer. Et voilà, c'est la France, ça prend toujours un petit peu plus de temps qu'ailleurs, j'ai l'impression. Mais on va y arriver.
Quand la péridurale est arrivée, ça a été une sorte de révolution pour les femmes. La réflexion que vous vous amenez, c'est de ne pas rentrer forcément dans un systématisme de la péridurale.
Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que la péridurale peut amener à d'autres interventions médicales. C'est peut-être plus là le risque de la péridurale qui peut être une superbe solution et qui est une super invention pour les femmes, mais elle peut conduire à un certain nombre d'interventions, à un ralentissement du travail par exemple, à une augmentation du nombre de césariennes. Il y a plus de risque d'avoir une césarienne si on a une péridurale par exemple. Donc voilà, en fait, ça peut créer d'autres risques derrière.
Je pense aussi que les femmes aujourd'hui, on commence à davantage parler de ce qu'on vit à l'accouchement. Et on entend de plus en plus de récits de femmes qui ont mal vécu la naissance et qui n'ont pas envie de reproduire ce schéma-là. Des femmes qui peuvent dire « j'ai rien senti à mon accouchement parce que ma péridurale était certainement forte et du coup je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ». Et elles n'ont pas forcément envie de renouveler ce schéma-là quand il y a une seconde grossesse qui arrive. Et du coup, dans ces cas-là, elles se renseignent davantage sur « Ok, la péridurale, si je m'abstiens, qu'est-ce que ça représente ?» Et c'est vrai que pour accoucher sans péridurale, je pense que c'est important d'être informée sur les étapes parce qu'il y a des moments qui peuvent être un peu challengeants.
Et voilà, on se donne l'option cette fois-ci de se dire le deuxième accouchement, si on ne le sent pas forcément à la maison, on ira à la maternité de la maison.
Et vous, Jennifer, vous êtes doula. Qu'est-ce que c'est qu'une doula ?
La doula, c'est une professionnelle de la relation d'aide. Ce n'est pas une professionnelle de santé. Des fois, on fait quelques amalgames. Mais non, je suis professionnelle de la relation d'aide. Mon travail, c'est d'être aux côtés des parents au moment de la grossesse, de la naissance et du postpartum pour apporter un soutien psycho-émotionnel, du soutien physique et puis du soutien pratique.
Et c'est vous qui animez ?
On a débuté du coup les cafés physio en octobre dernier. J'ai un petit peu animé en effet ce premier café physio, là le second, dans l'idée aussi c'est que tous les membres de l'association après puissent activement participer au café physio un petit peu partout dans le département.
Si on veut vous contacter ou prendre connaissance des événements que vous mettez en place sur notre département, où est-ce qu'on vous retrouve ?
Alors pour l'instant, on a une adresse mail bien.naitre@mayenne.gmail.com. Et puis on a également un compte Instagram qu'on essaye de rendre assez actif.
Dans quelques instants, je vous parle de devoirs de mémoire et comment sensibiliser, impliquer les nouvelles générations dans cette partie tragique de l'histoire mondiale pour surtout ne jamais l'oublier. C'est juste après « So May We Start » des Sparks. Alors si ce vendredi est un peu difficile pour vous, ça risque de vous redonner un certain élan. En fait, un très bon élan.
So, may we start?
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're under. Budget is large, but still, it's not enough.
So may we start?
May we start? May we not start?
So may we start?
May
we start.
Comédie musicale de Léos Carax, Annette, sortie en 2021. Une partie de l'histoire, une certaine mémoire à ne jamais effacer. C'est un peu l'objectif du concours national de la résistance et de la déportation proposé aux élèves de collège et lycée. Je me suis rendue dans l'amphithéâtre du lycée Ambroise Paré pour rencontrer Marie-Claude Tourtelier et Raphaël Bellon qui nous expliquent ce qu'est précisément ce concours. Je m'y suis rendue mercredi alors qu'une conférence était organisée auprès des élèves.
Marie-Claude Tourtelier, professeure d'histoire et de géographie au lycée Douanier-Rousseau depuis 1992, hein, pour ne rien cacher. Je m'occupe du concours national de la résistance à la déportation, que ça doit faire pas loin d'une vingtaine d'années, je pense. Ce concours, c'est un des plus vieux, sinon le plus vieux concours scolaire existant, puisqu'il remonte à 1961, donc il a été créé en 1961, par en fait des anciens résistants et des anciens déportés, qui appartenait donc à une organisation qui existe toujours, mais malheureusement dont beaucoup de membres sont aujourd'hui disparus, qui s'appelle les combattants volontaires de la résistance, les CVR. Et donc ce sont des hommes et un peu de femmes aussi qui, à l'époque, s'inquiètent du devenir de la mémoire de la résistance et de la déportation. Donc on est en 1961 et ils pensent déjà que quand ils vont disparaître, cette mémoire risque de disparaître avec eux. Alors, il y a donc tous les ans une nouvelle thématique, alors qu'il y a toujours à voir, bien sûr, avec donc la question de la résistance et de la déportation. Parfois, la thématique est plus ciblée sur la résistance, c'était le cas, par exemple, l'année dernière. Parfois, elle est plus centrée sur la déportation, et puis parfois, elle combine les deux aspects. Là, c'est intéressant parce que souvent, effectivement, c'est plus mobilisateur pour les élèves. Et là, la thématique cette année, alors c'est une thématique qui est très très ouverte, hein, y a vraiment beaucoup d'entrées possibles, qui est résister à la déportation, et en France et en Europe. Donc les élèves peuvent tout à la fois travailler sur la résistance lorsque celle-ci, donc, dans ses actions, lutte contre donc, la déportation, par la fabrication de faux papiers, par exemple, par les aides aux évasions. Et puis, l'autre entrée, évidemment, c'est la résister à la déportation quand on est dans un camp. Là, ce sont d'autres formes de résistance, mais qui sont tout aussi intéressantes, puisque là, ça va plus résider dans des formes de résistance qui consistent, en fait, à empêcher l'entreprise de déshumanisation qui était au cœur du système concentrationnaire. C'est-à-dire que les nazis affaiblissaient physiquement donc, les déportés, mais plus encore, ils les affaiblissaient, ils essayaient de provoquer un effondrement psychologique, en fait, par tout un processus de déshumanisation. Et dans un camp, par exemple, des choses tout aussi qui pourraient paraître totalement totalement anodines et même curieuses en milieu normal, comme le fait par exemple de s'échanger des recettes de cuisine, par exemple, hein, tout simplement. C'est une forme de résistance parce que c'est convoquer en fait des scènes de la vie ordinaire pour rester humain. Voilà. Se réciter des poèmes, par exemple, aussi, ou chanter des chansons. Ça aussi, donc effectivement, c'est une forme de résistance à la déshumanisation, puisque c'est une manière de rester humain. Voilà.
Raphaël Bellon, responsable des activités pédagogiques à la Fondation de la Résistance.
Ok, donc aujourd'hui, vous êtes venu faire une conférence par rapport au concours national de la résistance et de la déportation auprès des professionnels, des enseignants, mais aussi auprès des élèves. Quelle piste vous avez pu donner justement aux élèves pour aborder ce concours ?
L'idée, c'est à la fois de proposer des clés de réflexion aux élèves pour qu'ils aient les grandes thématiques du concours et également de leur donner des pistes sur les différents thèmes qu'ils peuvent aborder, à la fois pour avoir des exemples pour les copies individuelles, puisqu'il y a une épreuve individuelle, ou des études de cas pour les épreuves collectives. Et de leur donner aussi, bien sûr, tout ce qui est ressources. Alors, en ligne, puisqu'on sait que les archives locales, départementales ou les musées locaux ont souvent de très riches fonds d'archives et fonds des sélections pour le concours, mais tout ce qui se fait au niveau national pour qu'ils puissent travailler à partir d'archives, hein, puisque c'est un concours d'histoire, et donc c'est aussi important que les élèves travaillent à partir d'archives et produisent cette connaissance historique. Et aussi insister sur la dimension qui est propre à ce concours et qui était particulièrement importante dans le SEM de cette année, qui est le retour, la reconstruction, la mémoire et tout ce qui consiste à lutter contre l'oubli et la mémoire qui était portée autour. Donc comment on peut travailler aussi sur ces thématiques-là. On voit que c'est un sujet qui reste encore important et malgré tout, avec cette inquiétude hein, de la part de ceux qui s'intéressent au sujet ou qui portent cette mémoire avec la disparition des derniers témoins, qui se demandent voilà, comment ensuite continuer à faire vivre cette mémoire. Alors sur l'histoire, il y a tous les historiens qui travaillent autour, mais sur la question de la mémoire, et ce concours a un rôle essentiel là-dedans. Et on voit que c'est un sujet qui reste important, mais voilà, qui demande aussi de continuer à être porté, et c'est tout l'enjeu de ce concours. Et c'est vrai que voir les élèves comme ça qui réagissent, qui savent des choses, c'est toujours quelque chose qui est assez intéressant à voir et émouvant à voir. Et l'important aussi finalement d'interagir avec les élèves, de pas simplement leur dire les choses, mais de voir comment eux voient les choses, ce qu'ils savent, et partir de ce qu'ils et elles savent aussi pour rebondir dessus, ou parfois aussi déconstruire des choses qu'ils pensent et qu'elles pensent savoir et qui sont pas forcément toujours conformes à la réalité historique. Justement pour distinguer ce qui relève de la mémoire et ce qui relève de l'histoire.
J'espère que vous ne vous sentez pas complètement à bout de cette semaine qui vient de s'écouler, puisque ce week-end, il y a des sorties intéressantes. Je vous en parle dans l'agenda de la semaine, c'est bientôt. Avant ça, vous le comprenez, j'essaie de vous pousser un peu, ou peut-être même me pousser moi, toute seule, une bonne impulsion musicale pour se redresser et s'agiter un peu. Qu'est-ce que vous dites de Joan Jett et les Black Hearts ? On écoute Cherry Bomb.
Cherry bomb!
pour commencer cet agenda de la semaine, on se rend dans le sud Mayenne, à Château-Gontier, au Carré. Puisque se produira le groupe Gogo Penguin samedi 16 décembre, le concert est co-organisé avec le 6x4. C'est un trio qui compose une musique à la fois cinématographique et pleine d'émotions. Je vous en parle plutôt tôt, bien en avance, car même si Lucie n'est pas là aujourd'hui pour vous convaincre, pour elle c'est un vrai coup de cœur. Je crois que l'on peut se fier à ses goûts musicaux car ils ne sont plus approuvés dans cette émission. On n'oublie pas bien sûr aujourd'hui le concert illustré Baladine, toujours au Carré, avec l'illustratrice Ilia Green. Pour que des illustrations prennent vie sous vos yeux et en musique, c'est au Théâtre des Ursulines que ça se passe. On vous en a parlé lundi dans cette émission, le podcast est encore disponible sur notre site internet bien sûr. Et si vous avez envie de rire, moi je vous conseille d'aller au Théâtre de Laval car Thomas Poitevin joue ses perruques. Sous chacune d'entre elles, une irrésistible galerie de personnages tendres et caustiques, des anti-héros tendres, des losers magnifiques. Il passe en un battement de cils du septuagénaire mégalo à la bourgeoise au bord de la crise de nerfs. Vous l'avez compris, un spectacle aussi drôle qu'humain. Et alors je vous en parle un peu aujourd'hui et je vous conseille bien sûr de prendre vos places dès maintenant. Au Théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe se produira la compagnie La Piccola Familia du célèbre Thomas Joly qui jouera sous vos yeux Arlequin poli par l'amour. Et oui, Arlequin est beau mais nigo. Il est séquestré par une fée éperdue d'amour alors que son cœur à lui vacille pour la belle Sylvia, une bergère. Thomas Joly, le metteur en scène, est reconnu pour ses spectacles audacieux et populaires et le 15 décembre, il vous propose un décor de cabaret aux lumières raffinées. Ça risque d'être un pur moment de théâtre, comptez sur moi pour vous en parler la semaine prochaine. Et pour terminer cet agenda, puisqu'il faut bien le terminer à un moment, à Ombré d'Anjou, au Théâtre de la Chaise Rouge, a lieu ce soir une conférence appelée « Abeilles et fleurs, il était une fois, nutrition et pandémie ». Jean-Marc Lalloz de Mayenne Nature Environnement vous en dit quelques mots, écoutez.
Conférence donc sur l'importance de la biodiversité et le lien entre la biodiversité et les pandémies. Un peu dans la foulée de la fameuse fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin et du documentaire qui a été réalisé. Donc c'est une idée qui est venue à Patrick Cosnay de la compagnie de la Chaise Rouge, chez lesquels on va présenter la conférence. Et cette conférence consiste à mettre justement en exergue le lien qu'il y a entre la sauvegarde de la biodiversité et en particulier des pollinisateurs avec les pandémies. Sachant que les pandémies, c'est la première alerte sérieuse en plus du réchauffement climatique. Et après, on ose l'imaginer, et je pense qu'il y a moyen de réagir avant, l'issue, si on ne fait rien, tout ça, c'est un risque d'extinction de la biodiversité et donc de l'humanité. Mais je pense, moi je suis d'optimiste, même si c'est difficile et des fois déprimant, je pense qu'on a tous les moyens sur la table, on connaît les solutions, encore faut-il qu'il y ait des volontés pour les mettre en exergue et les appliquer surtout.
Eh bien, chers auditeurs, il semblerait que l'on se rapproche du week-end tous ensemble. Et pour mieux vous accompagner pour cette dernière journée de la semaine, on commence la soirée avec Temps Mort à 19h. Chaque mois, Amazé Ramadan Guest, Maël Fouché et Pablo Bourdoiseau marquent un temps mort dans le rap français pour revenir sur 3 sorties marquantes du mois. Et comme la soirée ne peut sûrement pas s'arrêter là un vendredi soir à 20h, c'est Fred et Plom qui prennent la relève avec Tempus Fugit. C'est une émission musicale que vous retrouvez toutes les 2 semaines sur l'autre radio. Ils ont tous les deux des goûts musicaux plutôt différents, l'un plutôt pop-rock, brut de décoffrage, alors que l'autre est plus psyché, hard et années 70. Vous l'avez compris, c'est une soirée musicale que vous propose l'autre radio pour ce vendredi soir. Et bien sûr, on va regarder un peu ce qui se passe ce week-end sur nos ondes. Samedi à 13h, vous écouterez Rock Dreams, une émission qui, en 30 minutes, vous propose de découvrir un groupe en compagnie de Bruno ou Yann. Dimanche, votre journée commencera à midi avec Anachronique, ensuite H1000, Métaclassique, et puis pour terminer, du poil sous les bras. Une belle programmation vous attend sur l'autre radio. Vous voilà rassurés, vous pouvez rester au chaud, tisane, chocolat chaud ou grog pour les plus enrhumés de la saison. Reposez-vous, prenez le temps de prendre le temps et puis surtout, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Et quand même, d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.